Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Babel Pongo Basimango.
Madame, Monsieur, bonjour. Les Léopards qualifiés pour la Coupe du Monde de football, un événement historique célébré à travers le pays et même en dehors, puisqu'il intervient 52 ans après. Ils l'ont fait en battant les Reggae Boys de la Jamaïque par 1-0. Dans ce journal, en retour sur cette rencontre aussi, l'ambiance du match telle qu'est vécue dans une fan zone de Kinshasa. Nouveau braquage hier à Kinshasa en pleine journée. Des bandits ont cambriolé un shop aux alentours de 10h au quartier Binzandelvo dans la commune de Ngalima en tirant plusieurs coups de feu en l'air. Ils ont ravi une somme d'argent dont le montant reste encore inconnu. Vous suivez le bourgmestre adjoint de cette commune. Les invités du dialogue entre Congolais sont revenus hier sur la 13e conférence des gouverneurs de province de la RDC, clôturée vendredi dernier à Bandundouville. Vous suivez dans ce journal leur réaction. Fini le suspense, les Léopards de la RDC seront présents à la Coupe du Monde de football dès le mois de juin prochain. Ils ont gagné le match de la finale des barrages intercontinentaux qui les a opposés aux Reggae Boys de la Jamaïque la nuit de mardi à aujourd'hui mercredi. Une victoire qui a pris du temps à se dessiner, faisant douter les Congolais qui suivaient ce match à différents endroits malgré l'heure tardive. Jean Ngandou revient sur ce match.
La RDC se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde après un match terne où elle a été dans l'ensemble dominée par la Jamaïque, notamment au cours des 90 premières minutes. Pour les Congolais, vitesse et précipitation étaient logées à la même enseigne, si bien qu'ils ont vendangé les différentes occasions qui se sont offertes. Invités à jouer la prolongation, les poulains de Sébastien Desarbres ont trouvé leur bonheur à la 100e minute grâce au défenseur Axel Toazembe sur balle arrêtée. Les Léopards ont donc sorti leurs griffes pour faire mal aux Reggae Boys de la Jamaïque qui ne sont plus parvenus à revenir au score malgré les multiples tentatives. La faute à une bonne défense de la RDC qui a su annihiler toute leur fougue offensive. La RDC à la Coupe du Monde, c'est donc un rêve qui est devenu une réalité après plusieurs tentatives. Ainsi, le signe indien qui poursuivait les Congolais depuis plus de 50 ans est donc brisé et désormais, la RDC s'invite dans la cour des grands en étant le 10e pays africain attendu à la phase finale de la Coupe du Monde qui s'est joué aux États-Unis, au Canada et au Mexique dès juin prochain. Cette victoire a donc suscité des scènes de liesse à travers les artères de Kinshasa et des différentes provinces du pays. À la place du reggae jamaïcain, ce sont plutôt les pas de danse de la rumba congolaise qui ont été exhibés à l'issue de ce match.
Merci Jean Gandou. Et la qualification de la RDC à la Coupe du Monde 52 ans après a été suivie avec passion dans plusieurs coins du pays. Vanessa Kongolo a suivi ce match dans la fan zone à la place royale ici à Kinshasa. Son reportage.
Au coup des sifflets final du match Jamaïque-RDC ici à la place royale, la joie est indescriptible pour les supporters. L'attente était longue, 0-0 après 90 minutes. C'est en prolongation que Axel Toazembe délivre la RDC, Trésor Kibangula est en transe.
Le bonheur est inouï, on a douté pendant 90 minutes et pendant les 2 fois 15 minutes, ils l'ont fait. On l'a fait, on est qualifié pour la Coupe du Monde après 52 ans. La folie ici, tout le monde chante et c'est juste incroyable de vivre ça parce qu'on l'a jamais vu. On a tellement attendu ce moment et là, c'est fait. Ils ont fait, on l'a fait!
Juste à côté, Freddy Mwamba a même les sols et couverts du drapeau de la RDC, rend grâce à Dieu.
Après un demi-siècle, on va jouer la Coupe du Monde avec les grandes nations de football. Je suis très content, donc je rends grâce à Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment je peux expliquer ma joie, mais vous pouvez le remarquer sous la pluie. Je suis là en train de regarder notre match. Je suis vraiment fier de notre équipe, vraiment. Je suis fier d'être Congolais. Vraiment, vamos!
Malgré la pluie, les supporters ont inondé les rues pour célébrer la qualification du pays à la Coupe du Monde 52 ans après.
Félicitations donc aux Léopards de la RDC ainsi qu'à tous les Congolais. Moment de suspense hier, mardi, dans la commune de Ngaliema, avec ce énième braquage dans la capitale. Des assaillants ont cambriolé un shop aux alentours de 10h dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier Delvaux. Fait confirmer par le bourgmestre adjoint de cette commune, selon les premières informations livrées par lui, un groupe de 8 individus armés circulant à moto et pour la plupart cagoulés a mené une opération de braquage devant un shop de la place. Les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu en l'air pour semer la panique avant de s'en prendre au propriétaire du commerce, à qui ils ont ravi une somme d'argent dont le montant reste encore inconnu à ce stade. Après leur forfait, les malfaiteurs ont pris la fuite. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Descendu sur le lieu de l'incident, le bourgmestre adjoint Jules Kabanga a appelé la population au calme, tout en rassurant que des mesures seront prises pour mettre fin à cette situation d'insécurité dans la commune. Écoutons Jules Kabanga, bourgmestre adjoint de Ngaliema, au micro de Nancy Tambo.
Nous sommes précisément à Delvaux, sur la grande route avant le marché Delvaux. Il y a eu braquage ici, il y a 4 motos avec plus ou moins 8 personnes cagoulées qui se sont pointées devant un shop et puis ils ont braqué le responsable du shop. Ils lui ont ravi de l'argent, ils ont tiré des balles un peu en l'air et puis ils ont pris fuite. On n'a pas enregistré de mort. Ils ont volé de l'argent, on ne sait pas estimer le montant, le propriétaire du shop n'est pas là. On est en train de les chercher pour avoir beaucoup plus de précision. Décision, par rapport au montant qu'ils ont pris. Nous demandons à la population d'être calme. Nous sommes en train de travailler avec les services de sécurité afin de lutter sérieusement contre ce genre de pratiques. Nous allons tout faire pour mettre la main sur ces bandits-là qui sont en train de semer la terreur et la désolation dans notre commune.
Notez que des braquages avec des assaillants à moto sont enregistrés dans plusieurs communes de Kinshasa depuis quelques temps. Il s'agit notamment des communes de Bandalungwa, Kalamu, Limete, Limba, Matete, Mongafo, Lanji, Linsele et même Ngiringiri. Parlons d'insécurité dans l'est de la RDC à présent. Elle est persistante dans plusieurs zones de l'Ituri et cette situation ne permet pas au Programme alimentaire mondial PAM d'atteindre toutes les populations dans le besoin. C'est ce qu'a déclaré l'assistant directeur exécutif de cette agence onusienne en mission à Bounia depuis hier mardi. Objectif de sa visite, améliorer l'assistance en faveur des personnes déplacées internes, mais aussi des réfugiés sud-soudanais présents sur le sol congolais. Nous faisons le point avec Jean-Claude Lokidile.
En visite de terrain, Matthew Hollingworth explique que cette mission vise à évaluer la situation humanitaire et à renforcer la collaboration avec les autorités provinciales.
Je suis ici aussi pour voir comment on peut assister différemment les populations au travers des programmes de solutions durables et comment on peut assister notamment les réfugiés et les déplacés.
Food needs, but also some of the refugees that have arrived from South Sudan.
Il souligne que la sécurité complique l'accès humanitaire dans plusieurs zones, rendant difficile l'assistance aux populations les plus vulnérables. Il insiste également sur la nécessité de renforcer la coordination avec les autorités de la province et soutenir les familles déplacées qui désirent retourner vivre dans des villages déjà sécurisés. De son côté, le gouverneur de l'Ituri appelle à la cohésion sociale pour favoriser le retour de la paix dans la province. Général Johnny Luboya.
Parce qu'avec le pardon et la réconciliation, les populations vont rentrer chez elles. Si nous pouvons nous donner la paix, je suis sûr que dans les 5 années qui vont venir, l'Ituri sera une des grandes provinces, peut-être même la première en RDC.
Selon lui, seule la stabilité permettra aux partenaires humanitaires et à l'État congolais de concentrer leurs efforts sur des projets de développement au bénéfice des populations. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Les efforts visant à consolider la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, au cœur des échanges tenus hier mardi à Kinshasa entre Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, et le professeur Tumba Luaba, coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. À l'issue de la séance du travail, Wang Xia a indiqué qu'il s'agissait avant tout de faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la région, afin de passer en revue les avancées et les défis persistants dans les efforts de paix engagés depuis le début de l'année. Richard Junior Kamunga.
L'envoyé spécial a souligné la nécessité de renforcer la synergie entre les initiatives africaines et internationales dans la recherche d'une solution globale et durable à la crise.
Donc ce que nous espérons, c'est que ces efforts de paix, qu'ils soient africains ou externes, travaillent en synergie, en complémentarité, pour contribuer à la recherche, à l'identification d'une solution globale, durable à cette situation d'instabilité.
Pour sa part, le professeur Tumba Luaba a exprimé un optimisme mesuré mais résolu quant au retour progressif de la paix dans la région. Il a salué la dynamique actuelle marquée par l'intensification des missions diplomatiques de l'envoyé spécial et la mobilisation continue des partenaires régionaux et internationaux.
Nous pensons que nous avançons. Il y a des hommes qui sont debout, qui sont engagés pour cette cause de la paix, le président de la République lui-même, et nous avons la chance d'avoir des artisans et des alliés de la paix et de la région.
Selon le représentant du secrétaire général, les éclairages fournis par le coordonnateur du mécanisme national pour le suivi contribueront à affiner la préparation de sa prochaine réunion au Conseil national de sécurité de l'ONU prévue le 15 avril 2026.
En politique, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, a déposé hier mardi l'unique candidature de Norbert Basengezi Katintima au poste de deuxième vice-président du Sénat en remplacement de Modeste Bahati Lukwebo. Selon une correspondance adressée au président de la Chambre haute du Parlement, André Mbata affirme que ce choix, entériné par Félix Tshisekedi, s'inscrit dans la ligne de la majorité et exclut à ce stade toute candidature de l'opposition ou des indépendants. Ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et élu du Sud Kivu, Basengezi Katintima a été désigné après un processus interne renforcé par le retrait de la candidature de Françoise Bemba par son parti politique, le Mouvement de Libération du Congo, MLC. L'élection et l'installation du nouveau deuxième vice-président sont prévues le 3 avril prochain. L'ère du numérique se répand de plus en plus à Beni, dans le Nord Kivu. Pour preuve, l'intelligence artificielle s'impose progressivement dans les universités et institutions supérieures. Étudiants et enseignants recourent de plus en plus à cette branche de l'informatique qui permet aux machines de simuler l'intelligence humaine pour apprendre, raisonner, résoudre des problèmes et prendre des décisions. Si cet outil présente plusieurs avantages, il soulève aussi des inquiétudes quant à ses effets sur la qualité de l'apprentissage. C'est un reportage de Jacqueline Vivou.
Étudiants, enseignants et chercheurs ne peuvent désormais presque plus se passer de l'intelligence artificielle. Cet outil leur apporte un appui considérable dans la réalisation des différentes tâches académiques. À l'Université chrétienne bilingue du Congo, des étudiants en sciences de l'information et de la communication évoquent ces avantages.
Dans les systèmes LMD où l'étudiant doit être autonome, elle permet d'approfondir les connaissances, de mieux comprendre le cours.
Avec le système LMD, nous comprenons que l'enseignant ne vient que pour donner le 40% de la matière, tandis que le 60% est donné au travers de l'intelligence artificielle.
Mais malgré ces apports dans l'auto-formation, l'intelligence artificielle a aussi des limites. Certains enseignants s'inquiètent de ses effets sur les capacités intellectuelles des étudiants, explique Feni Mundua, enseignant d'université.
Les étudiants sont devenus un peu paresseux dans la rédaction, dans le respect de grammaire, dans le respect d'orthographe, dans le respect des principes académiques.
Plusieurs acteurs recommandent une utilisation encadrée de l'intelligence artificielle afin de préserver la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Beni, Jacqueline Vivouya pour Radio Okapi.
Dans la province du Kasaï, la route Chikapa-Muyehi se trouve dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs têtes d'érosion rendent la circulation particulièrement difficile sur cet axe d'intérêt économique. Cette situation complique l'évacuation des produits agricoles vers la ville de Chikapa et menace les moyens de subsistance de nombreux ménages. C'est pourquoi la notabilité locale appelle le gouvernement provincial à intervenir en urgence pour réhabiliter cette route. Le point avec André Katendengalamulume.
Plusieurs têtes d'érosion ont déjà coupé ou fragilisé certains tronçons de la route Chikapa-Ngombe-Muyehi, selon nos sources. Les habitants de cette zone vivent principalement de l'agriculture et de l'exploitation artisanale du diamant. Mais aujourd'hui, ils peinent à évacuer leurs produits vers la ville de Chikapa. Conséquence, le maïs et les manioc pourrissent dans les champs, faute des moyens de transport. À Machibola, dans les groupements des Bulouaya, le chef Malou, notable local, lance un appel pressant.
Qu'on nous réhabilite cette route, sinon nous allons mourir de faim. Les véhicules, les motos et même les vélos n'arrivent plus à circuler ici à cause des têtes d'érosion. Nous avons tenté de stopper leur progression, mais sans succès. Que le gouvernement nous vienne en aide.
La société civile locale formule les mêmes plaidoyers. Elle estime que la réhabilitation de cette route est indispensable pour lutter contre l'insécurité alimentaire à Chikapa, une ville largement approvisionnée par le village situé le long de cet axe. Kananga, André Katendingala Moulumé, Radio Kapi.
Et puis cette alerte au manque d'eau et d'électricité à Kinshasa, la sonnette d'alarme est tirée par la voix de son voix. L'accès à l'eau potable et à l'électricité devient un casse-tête en plusieurs communes car de plus en plus difficile et cette situation impacte directement le quotidien des habitants. La VSV s'est exprimée lors d'une conférence de presse animée lundi et dans la capitale. L'organisation appelle aussi à des mesures concrètes pour améliorer l'accès à ces services essentiels. Kassam Sati nous en parle.
Dans plusieurs quartiers de Kinshasa, l'eau potable se fait rare. Des robinets restent à sec pendant des semaines, obligeant les habitants à parcourir de longues distances ou à recourir au forage avec des risques sanitaires. Makala, Selembao, Kisenso ou encore Mongafula figurent parmi les zones les plus touchées. La situation est similaire pour l'électricité. Coupures fréquentes, dessertes irrégulières, voire absence totale de courant dans certains quartiers. Des habitants dénoncent également des factures pour des services non fournis. Pour expliquer ces difficultés, des responsables évoquent notamment la vétusté des infrastructures, le vandalisme ou encore des problèmes de financement. Face à cela, la voix des sans-voix appelle les autorités à agir. Pierre-Serge Ntumba, deuxième directeur exécutif adjoint de l'ONG.
Le gouvernement a contraindre tous les services étatiques à s'acquitter régulièrement de leurs factures de consommation d'eau et d'électricité. Doter la régie des eaux et la SNEL des moyens matériels et financiers nécessaires pour rendre permanente et régulière la desserte des habitants de la ville de Kinshasa en eau et en électricité.
L'organisation plaide également pour des sanctions contre les responsables des dysfonctionnements dans ces services publics.
Actualité internationale.
Le président sénégalais a promulgué lundi la loi doublant la peine maximale pour les relations homosexuelles, publiée mardi au journal officiel. La nouvelle législation punit les actes contre nature de 5 à 10 ans d'emprisonnement contre 1 à 5 ans jusqu'alors. Le texte prévoit également entre 3 et 7 ans de prison pour les personnes reconnues coupables d'avoir promu, encouragé ou financé les relations homosexuelles.
L'invité.
Il s'est clôturé le vendredi 27 mars à Bandundouville, dans la province du Kwilu, les travaux de la 13e conférence des gouverneurs de province de la RDC. L'une des principales recommandations issues de ces assises, c'est l'instauration d'un moratoire sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir ont analysé ces différentes recommandations. On les écoute au micro de Guimaté.
Jean-Rigobert Chimanga, vous êtes secrétaire général du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Parmi les recommandations issues de cette 13e conférence des gouverneurs, il y a l'instauration de ces moratoires sur les motions de défiance contre les gouverneurs et les bureaux des assemblées provinciales. Monsieur le secrétaire général, qui va instaurer ces moratoires? Est-ce le gouvernement central ou ce sont plutôt les assemblées provinciales?
Ces moratoires, comme vous le savez, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déjà à plusieurs reprises réuni ici à Kinshasa les bureaux des assemblées et les gouverneurs. Il les a fait réfléchir. Je peux vous dire qu'il y a des provinces qui ont déjà compris parce que cette recommandation a été formulée depuis l'année passée. Je peux vous informer qu'il y a 7 de ces provinces qui ont intégré ça dans les édits provinciaux pour dire nous ne pouvons pas déstabiliser nos provinces.
Ah, donc ils ont pris conscience. Ce serait une initiative des assemblées provinciales.
Mais de toutes les façons, c'est au niveau provincial que le pouvoir de destituer un gouverneur a été confié par la Constitution. Donc, on fait porter cette responsabilité à ces grands électeurs qui doivent savoir qu'ils ne doivent pas déstabiliser les institutions. Et aussi bien, on interpelle en même temps les gouverneurs qui ne doivent pas manipuler les députés pour pouvoir déstabiliser aussi les bureaux des assemblées. Parce que les efforts doivent être conjugués de part et d'autre de tous ces acteurs au niveau provincial.
Mais pour beaucoup d'analystes, cette décision viole à beaucoup de points de vue les textes légaux relatifs, n'est-ce pas, à la gestion des provinces. Et ces analystes estiment que cela pourrait créer un précédent fâcheux. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire dans ce cadre. Dire que ce sont des analystes, les analystes font des analyses, mais le problème, la gestion a ses méthodes et la gestion a ses réalités. La finalité que l'on veut, c'est la stabilité des institutions. Et cette stabilité...
Et à cet effet, on peut même violer certains textes des lois, ça ne poserait aucun problème.
Il ne s'agit pas ici de violer. Il s'agit plutôt de donner la conscience à tous ceux qui prennent leurs décisions, de les prendre en âme et conscience.
Merci Jean Bakomito Gambou, vous êtes gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent, vous gouverneur, de vouloir, à travers ce moratoire, empêcher aux assemblées provinciales d'accomplir l'une de leurs tâches importantes, celle du contrôle parlementaire?
Ceux qui disent que c'est une façon de bloquer le contrôle ou de bloquer l'assemblée provinciale à ne pas faire leur travail, permettez-moi de dire qu'ils n'ont pas raison. C'est une question de voir l'approche ou de comprendre la démarche. Et c'est déjà essayé de le dire d'ailleurs. Le moratoire n'est pas un chèque à blanc qui est devenu au gouverneur. D'ailleurs, dans la recommandation, il est bien dit que les contrôles, IGF, la Cour de compte et bien d'autres structures, s'il y a un contrôle qui est objectif, il peut toujours donner lieu à des procédures qui peuvent aller au-delà. Mais bien entendu, il n'y a pas que l'Assemblée provinciale qui peut faire tomber un gouverneur. Les gouverneurs peuvent aussi manipuler pour faire tomber les bureaux d'ensemble. Donc, c'est un appel à la responsabilité de toutes les institutions. Mettre d'abord l'intérêt de la province en avant. Le contrôle, il est légal.
Merci, Soudi Kimputo Alimassi, vous êtes avocat, vous êtes expert en décentralisation. En plus de toutes les initiatives qui sont prises, à votre avis, que faut-il pour rendre les provinces de la RDC viables à tous les égards?
Il y a d'abord une fuite des responsabilités du pouvoir central sur ce qu'il doit donner aux provinces et les lâcher pour que les provinces puissent évoluer vers leur développement. C'est la question de la retenue à la source des 40%. Et vous savez que dès lors, et là je me souviens, c'est plus un gouvernement du régime passé, où tous les projets d'investissement des provinces ont été bloqués et sont jusqu'à ce jour, à moins qu'on me dise le contraire, sont exécutés par le pouvoir central, alors que ça relève de l'essentiel de ce qu'on doit accorder comme retenue de 40% à la province. Alors, dès lors que la province sera en mesure d'avoir les moyens pour lui permettre d'initier ce projet d'investissement, on ne va plus chercher, au travers de la conférence des gouverneurs, de donner l'impression qu'on évaluait et qu'on prenait en charge le problème des provinces. Et les provinces se laissent aller, et vous avez évoqué ici, que les provinces ne réclament plus les 40%. Parce qu'ils sont tous entrés dans les jeux de venir dans les conférences des gouverneurs, présenter leurs projets de compétences exclusives. Et les pouvoirs centraux disent, voilà, on va voir ça, on va évaluer. C'est pas ça l'objet de la conférence des gouverneurs.
Vous pouvez retrouver ce numéro de dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de la radio. Ainsi se termine ce journal préparé par Lievin Mbwinga, mis en onde par Jean-Claude Onsiala. Merci à nos collègues de l'équipe de sport, dont certains membres ont dû veiller pratiquement pour préparer les éléments que vous avez suivis dans cette édition. Merci également à vous pour l'attention que vous nous avez accordée. Excellente journée.